Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive sur Radio Shalom. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom, Chag Sameach.
Bonsoir, Shabbat Shalom, Chag Sameach.
Alors après ces fêtes de Kippour, on se dirige tout droit vers les fêtes de Soukhot. Et on va profiter de ce moment qui est très exceptionnel pendant une semaine, chacun le sait. Et il se trouve que les fêtes de Soukhot tombent toujours plus ou moins autour de notre paracha, Hazinu. Et que donc il y a un lien entre les deux. Hazinu, on pourrait dire que c'est... On pourrait le traduire par chanter. Alors pourquoi est-ce que les fêtes de Soukhot sont comme une forme de chant qui va durer pendant une semaine, Rav Eli Lemel?
Oui, tout à fait. Cette année, et d'ailleurs, il faut penser à toutes les épouses, à toutes les mamans, à toutes ces personnes qui, on l'espère, aidées par leurs époux, évidemment, comme ils le peuvent, eh bien, sont dans un rush entre la préparation du Shabbat et la préparation des repas sous la Soukha et la préparation de nouveau du repas de Chol HaMoed et de nouveau, grâce à Dieu. Je pense que eh bien, toute la famille, à mon avis, doit être mise bien en activité pour pouvoir préparer ces jours extrêmement intenses. Et en effet, cette année, de manière particulière, eh bien, nous avons juste avant Soukhot un Shabbat, qui est le Shabbat Ha'azinu. Alors, Ha'azinu, c'est prêter oreille. Et comme vous l'avez dit, c'est prêter oreille à un chant. Un chant, c'est le chant que Moshe va chanter d'une certaine manière au peuple d'Israël avant son départ. Et c'est celui dans lequel eh bien, il leur fait encore et encore ses dernières recommandations, leur rappelant leur histoire. Et tout de suite derrière, on rentre dans ce côté. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme Moshe l'a toujours fait lorsqu'il parle au peuple d'Israël, eh bien, il leur décrit, en effet, il y a à la fois leurs moments de grandeur, mais en même temps aussi leurs erreurs, leurs dysfonctionnements. Et il le fait, eh bien, parce que justement, Moshe, nous le savons, a un amour immense pour son peuple. Et il veut leur donner les moyens de puiser dans leur expérience, dans leur histoire, ce qui leur donnera la possibilité de construire par la suite l'histoire la plus belle possible. Et donc, il va s'arrêter, entre autres, eh bien, sur... le fait que Vaishman Yeshurun Vaivat, il va dire Yeshurun, c'est un des noms qui est donné au peuple d'Israël, Vaishman, il a engraissé Vaivat, et il a donné un coup de pied littéralement. Il va rappeler que le peuple d'Israël, malheureusement, lorsqu'il se retrouve dans des situations de Shmenout, c'est-à-dire dans lequel, eh bien, ça y est, il s'installe dans son confort, dans ce qu'il possède, eh bien, peut avoir cette tendance à mettre un petit peu de côté de Dieu, ça y est, on se débrouille tout seul, tout va bien, et malheureusement, il donne un coup de pied, il le rejette, et tout simplement, il donne à Dieu la place qu'il désire lui donner, puis ça s'arrête là. Et Moshe dit au peuple, rappelez-vous de ça, et c'est intéressant parce qu'on arrive tout de suite derrière dans la Soukha, et la Soukha, c'est justement quelque chose de radicalement différent. La Soukha, c'est le lieu qui nous permet de vivre en conscience de la présence d'Hachem. Je ne l'apprendrai à personne. Vous savez que le srar, c'est-à-dire ce toit de branchage de la soukha, eh bien, est appelé dans la tradition de la Kabbale, Tzila de Mehemnuta, la l'ombre de la foi, c'est-à-dire c'est un lieu dans lequel eh bien, on veut vivre dans cet état de conscience de la présence du divin à chaque moment de notre vie. Et d'ailleurs, vous le savez, la soukha, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable parce que il n'y a pas de rituel dans la soukha. Il y a bien sûr le kiddush que l'on va faire, comme on le fait d'ailleurs tous les vendredis soirs et toutes les fêtes, mais il n'y a pas de rituel particulier dans la soukha. On se contente de rentrer dans la soukha, on s'assoit dans la soukha, on mange dans la soukha, on boit dans la soukha, on discute dans la soukha, on étudie dans la soukha, on dort dans la soukha d'ailleurs, même si on peut, et on accomplit une mitzvah, on accomplit un commandement. Et qu'est-ce qui se joue derrière cela? Eh bien, c'est de vivre dans cet état de conscience permanent de la présence d'Hachem. Justement, on nous dit qu'aller sous la soukha, c'est tse midirat keva, sors de ton installation keva, qui te fixe, celle qui te donne du poids, ton lieu d'habitude, ton lieu dans lequel tu te sens dans tout ton confort, et va vers quelque chose de provisoire. Parce qu'en effet, la kviout, le fait d'être fixé, le fait de se sentir à l'aise dans ce que l'on possède, est bien quelque chose qui potentiellement peut être extrêmement dangereux, parce que ça nous amène à oublier la présence d'Hachem dans notre existence. Et donc, on a ici la soukha, qui va être là justement pour nous rappeler ce danger, pour nous rappeler qu'en effet, il faut se donner les moyens de ressentir la présence d'Hachem, et ce, à chaque moment de notre existence. Alors, évidemment, la soukha, c'est autre chose aussi. Alors, c'est quoi ? C'est aussi un lieu de joie. Et vous parliez tout à l'heure de chant, et le chant, c'est l'expression de la joie. Lorsque l'on est joyeux, eh bien, on chante. C'est-à-dire, on exprime à travers ses capacités vocales, qui sont différentes bien sûr chez chacun, un ressenti profond qui nous habite. Vous savez que la soukha, soukot, est appelée Zman Simchatenu, le moment de notre joie. Alors on a une obligation d'être joyeux dans toutes les fêtes, mais soukot, c'est la fête de la joie par excellence. Zman Simchatenu. Alors pourquoi ? Parce que, entre autres, évidemment, c'est le moment où on a récolté, le moment où on ramène tout chez soi. Et c'est intéressant parce qu'on dit c'est aussi ça la simcha. C'est le moment chagas, c'est le moment dans lequel ça y est. Les vendanges sont faites, les récoltes sont engrangées, on arrive vers l'automne, l'hiver, et on a le fruit de son labeur qui est présent. Et ça crée une joie, ça crée une joie. Mais cette joie, justement, eh bien, elle se situe dans une fête dans laquelle on se rappelle que Dieu est là en permanence. Comme si pour nous dire, au fond, cette joie que te procure ce que tu possèdes, eh bien, elle est... Elle n'a de sens que dans la mesure où elle s'inscrit dans un monde dans lequel tu te rappelles en permanence que tout ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis en même temps, cette simcha de la fête, cette joie de la fête, eh bien, c'est cette joie de se sentir en lien permanent avec le Créateur de l'univers. Alors, certains diront, nous, au contraire, si tu te sens en lien permanent, une forme de perte d'indépendance. Mais de toute façon, nous ne sommes pas indépendants. De toute façon, nous avons une illusion d'indépendance, mais à chaque moment, nous sommes totalement connectés au Créateur de l'univers et de lui dépend tout. Et donc, revivre pleinement cette dimension-là et l'expérimenter à travers tous les moments de la journée, puisque normalement, la mitzvah de soukha, eh bien, c'est d'y être en permanence. C'est ça aussi, ce Zman Simchatenu, c'est ça ce moment de joie qui va nous habiter, qui va nous pénétrer. Voilà un petit peu déjà le lien en tout cas que je voulais faire avec cette paracha dans lequel le chant, évidemment, c'est l'expression d'une joie, même si ici dans cette paracha, le chant est avant tout la manière de faire passer un message. Parce que Moshe Rabbeinu, on voit d'ailleurs les mots qui sont utilisés dans cette paracha sont extrêmement fouillés, extrêmement choisis. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'entendre des choses qui nous permettront d'éviter des écueils dans notre existence. Souvent, on aurait tellement eu envie qu'à un moment, on nous dise certaines choses, qu'on nous ouvre les yeux, qu'on nous donne les moyens de réaliser qu'il faut être vigilant dans certains domaines. Qu'est-ce qu'on aurait été content ? Alors, ici, c'est un petit peu cela aussi. On est dans cette joie d'entendre les paroles d'amour que Moshe exprime vis-à-vis du peuple, et qui sont là pour justement nous donner les moyens de créer un futur qui se conjuguera plus que parfait, de créer un futur dans lequel ces paroles retentiront en permanence à nos oreilles et nous permettront de ne pas faire de faux pas, nous permettront de remplir notre mission, nous permettront d'être véritablement heureux dans l'univers dans lequel on se trouve. Voilà un petit peu quelques pistes, parce que cette semaine, je vois plus cela comme étant quelques pistes, quelques ouvertures de réflexion par rapport et à la fois à cette paracha de Hazinu, cette réflexion sur Vayishma Yeshurun, le danger de ce que l'on possède, cette soukha qui justement nous permet de nous rappeler en permanence cette relation au divin, et ces paroles qui sont là pour nous éclairer sur notre futur et qui sont l'expression d'une joie profonde de celui qui les entend, parce que tout simplement, ce sont celles qui lui permettront eh bien, de construire le mieux possible son histoire. C'est ce qu'on se souhaite, que ce Shabbat eh bien, soit un Shabbat non point de décompression, un Shabbat dans lequel on reprend son souffle avant d'aller avec joie, avec bonheur, vers cette fête extraordinaire, Betsiladi Memnuta, à l'ombre du divin, proche encore plus d'Akadosh Baruch Hu, ressentant qu'au fond, il est présent à chaque moment de notre existence, pour aboutir évidemment après à l'expression de la joie la plus ultime, qui est celle de la conclusion de la lecture de la Torah, qui évidemment s'ouvre vers une nouvelle lecture, vers une possibilité de retrouver encore à nouveau cette étude qui va nous remplir, qui va nous permettre de grandir tout simplement. Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Alors, en vous écoutant, je pense à 100% à un enseignement de l'un de vos principaux maîtres, qui est le Rouv Zatzal. Et on m'a rapporté ces paroles, vous me direz. Mais j'ai tellement l'impression que ça correspond à ce que vous dites que je ne résiste pas à l'idée de vous poser la question. Et qu'il disait, parfois, on veut bien faire, on se met à crier dans la Sina, on croit, il disait, ça, c'est pas chanter, c'est crier. Nous, on croit qu'on chante, il dit non. Chanter, c'est autre chose. Je vous entendais tellement essayer de définir ce que c'est que la joie profonde. Pas aussi que même Simchat Torah, danser, c'est quand on sent quand quelqu'un danse et on sent quand il tape du pied par terre. Vous vous souvenez de cet enseignement?
Oui, complètement. D'ailleurs, je me rappelle de quelque chose qui est une anecdote qui a frappé beaucoup de personnes. C'était un Yom Kippour à la synagogue de la rue Pavée, rempli de monde. Et le moment de Yizkor, le moment où on rappelle le souvenir des disparus. Et je me rappelle encore le Rouv nous appeler et nous dire « Maintenant, vous allez chanter. » Et vous allez chanter un chant dont les paroles sont « Zara Chayav Kayama » qui veut dire « Une descendance qui vit et qui est toujours là et qui se maintient. » Un chant de joie. Vous savez, le Rouv était perdu sa première épouse, ses enfants pendant la Shoah, une grande partie de sa famille, son père, etc. Et je me rappelle, les gens, ça les avait surpris. Il était là pour dire « Non, maintenant, justement, c'est là où on chante. » On chante de réaliser qu'au fond, on est là, qu'on continue et qu'on fait avancer l'histoire. Et c'est, je crois, un petit peu ce qui éclaire votre propos. C'est-à-dire, il n'y a pas des moments définis, voilà, là on chante, parce que là, c'est une ambiance de chant. Non, c'est l'expression de ce que l'on ressent profondément. Il faut être un maître de cette envergure pour ressentir de manière assez hallucinante une forme de joie au moment où, en effet, il y a ce rappel du passé, parce que si on s'en rappelle, c'est qu'on est là. Et si on veut s'en rappeler, c'est qu'on veut le faire exister dans le futur. C'est, au fond, je pense, la beauté extraordinaire de ceux qui sont nos maîtres et qui nous donnent des vraies leçons de vie à travers ce genre de moments.
Ah ouais, quand on a perdu ses enfants dans la Shoah, hein, moi je suis journaliste, je suis pas grave, perdre ses enfants dans la Shoah, c'est considéré comme vraiment le pire, si on peut utiliser ce mot, et dire... Au moment de Iskor, maintenant on va chanter, il faut avoir les épaules.
Hein. Pas, exact. Hein. Mais il les avait.
Ah ouais. Ravelli Lemel, je vous souhaite une joie profonde, et vraie, et authentique, et douce, et familiale, et plein de belles choses, autant pour ce Shabbat, amen, autant pour ce Shabbat qui vient, que pour les fêtes de Sukkot. Chag Sameach.
Chag Sameach. Shabbat Shalom.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Et on retrouve à présent Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai Biton. Chag Sameach.
Chag Sameach. Tiskou Leshanim Rabot, Neimot, Vetovot.
Et Shana Tova, on ne boude pas notre plaisir de continuer à se dire Shana Tova, bonne année. Et on se dirige donc, on l'a dit, vers les fêtes de Sukkot. Donc, vous avez remarqué qu'il y a un lien entre la fête de Sukkot, la fête des cabanes, et Yaakov. Alors pourquoi? Parce que c'est signifié dans la Torah. On voit un moment après la rencontre avec Esav, Yaakov, il va à Sukkot. Alors, quel est ce Sukkot vers lequel se dirige Yaakov et qu'est-ce que ça nous enseigne?
Alors, parmi les décisionnaires, d'abord, le premier qui fait référence à ça, c'est le Tour. Le Tour qui est donc l'auteur d'une des premières compilations sur Shulchan Aruch, dans les lois de Rosh Chodesh, au chapitre 417, il fait référence au fait qu'il dit, voilà, j'ai entendu donc, des débats, les Tosfot, des maîtres de Tosfot, que les Moadim, les fêtes, elles ont été instituées en regard des Avot, des pères fondateurs du peuple juif. Pessah en regard de Avraham Avinu, Shavuot en regard de Yitzhak, et Sukkot en regard de Yaakov. Alors pour Pessah avec Avraham, on comprend pourquoi, parce que quand il s'est fait la Mila, c'était le nouveau départ du peuple juif, la naissance du peuple juif, et trois jours après la Mila, il va recevoir des anges, il va pétrir du pain, il y a beaucoup de références à Pessah là-bas. Le shofar également, et c'est un objet qui est présent au moment du don de la Torah, on entend le shofar, les voix du shofar, et c'est également quelque chose qui est lié à Yitzhak. Mais alors, pour Yaakov avec Sukkot, effectivement, le rapport est plus difficile à trouver, et donc, comme vous l'avez signalé, on le trouve en fait dans Parashat Vayishlach, la Parashat Vayishlach qui nous raconte en fait la rencontre entre Esav et Yaakov. Donc Esav va vouloir tuer Yaakov, finalement il ne le tue pas, et Yaakov va se battre avec l'ange de Esav, il va remporter cette bataille, puis finalement il rencontre Esav. Et là, Esav se rendant compte qu'il ne peut pas le tuer, donc il va essayer de lui proposer son aide et son accompagnement. Alors il y a une première chose qu'il faut dire, qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais il faut le répéter à chaque fois pour bien comprendre hein, ces choses-là, c'est qu'on dit « Maaseh Avot Sivan Abanim », c'est-à-dire que ce que la Torah nous raconte au sujet des pères fondateurs du peuple juif, c'est en fait une matrice historique et spirituelle, c'est un cadre dans lequel les noms et les lieux vont changer, mais c'est toujours le même système qui se répète. Donc là, quand on nous raconte la rencontre entre Yaakov et Esav, et pour nous dire à la fin que Yaakov va construire des Sukkot, c'est qu'on est en train de nous raconter ici à la fois un fait de civilisation, d'abord une histoire entre deux frères, c'est vrai, mais un fait de civilisation qui a une résonance spirituelle. En fait, Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Yaakov, écoute, voilà, si tu veux, moi je t'accompagne, je reste avec toi. Alors là, Yaakov, il répond, il dit, non, écoute, moi j'ai des enfants, il lui dit, j'ai des enfants dont je dois m'occuper, et les enfants, ils sont rakim, ils sont tendres, et j'ai aussi beaucoup de troupeaux et beaucoup de bétail. Dans le Zohar et dans le Midrash, il est indiqué qu'à chaque fois que Yaakov parle de son sonne de son bakar, de ses troupeaux, en fait, il parle des neshamot, des âmes du peuple juif. Et donc, il va dire la chose suivante. Il va lui dire, moi, j'ai beaucoup de travail. Si on lit au niveau du Midrash ici, il lui dit, moi, j'ai des enfants dont je dois m'occuper, j'ai un troupeau dont je dois m'occuper, autrement dit, je suis le père fondateur du peuple juif, je suis l'archétype du juif en galoute, en exil, et je dois m'occuper des enfants, les éduquer, faire passer la Torah, et je dois aussi m'occuper des âmes qu'on m'a données. Donc, passe devant, parce que j'ai beaucoup de travail, les régales à Melacha, je vais plus doucement parce que j'ai du travail, j'ai un travail intérieur à faire. Toi, tu vis avec ton épée, tu vis dans la performance, tu vis dans le politique, dans le géopolitique, dans l'économique. Moi, je vis dans le spirituel, je vais plus doucement que toi. Et là, on voit qu'Essa va à nouveau lui proposer son aide. Il lui dit, si tu veux, je t'adjoins des gens. Il dit, non, non. Et là, il n'y a pas de réponse. Yaakov ne répond pas. Et là, on voit un truc absolument incroyable. Yaakov, là, on voit que Essa, la Torah nous dit « Vayashov bayomahou Esav les darko sera ». Esav retourne vers Seir. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'un pasouk avant, j'ai oublié de le dire, lorsque Yaakov répond à Esav, il lui dit « Il faut que tu saches que le modèle, là maintenant, moi je dois m'occuper de mes enfants et de la Torah, c'est Adasher Yavo El Adoni Seira. C'est jusqu'à la fin de l'histoire, lorsque je viendrai vers toi à Seir. » Et on sait que dans Ovadia, dans l'Aftara donc, de Vayishlach, il est marqué là-bas que le Har Seir, c'est la montagne sur laquelle le jugement final va se produire, au moment où en fait on va comparer Esav et ses descendants et Yaakov et ses descendants. Et puis alors on continue après, donc Esav lui revient chez lui à Seir, et là Yaakov va voyager vers Sukkot. Il voyage vers Sukkot, et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va construire une maison. Alors c'est quoi cette maison? Le Targum Yonatan Ben Uziel dit c'est pas une maison, il s'est pas construit une maison pour lui, il s'est construit un Beit HaMidrash, une maison d'études, un centre d'études pour étudier la Torah. Où le Mikneou est pour son troupeau, pour ses âmes, pour âme Israël, il a construit des Sukkot. Qu'est-ce que c'est la Soukha? La Soukha, c'est un endroit dans lequel on va en exil après Kippour. On va se mettre en exil. Il y a deux formes d'exil dans le peuple juif. Il y a une première sorte d'exil qui est Sukkot. Qu'est-ce que c'est Sukkot? C'est Tzila Demnuta, c'est la Emouna. Le peuple juif, il vit dans un monde dans lequel la science, la pensée véhicule des concepts qui sont des concepts assez matérialistes. Je ne crois que ce que je vois. Je n'entends que ce que je peux percevoir. Je n'adopte comme mode de pensée que des choses qui sont rationnelles. Et nous, on vient, on dit, voilà, on se met dans un espace cerné, mais on a un toit qui est presque ouvert, et on peut voir le ciel. On peut voir Akadosh Baruch Hu. On vit dans une dimension verticale. Certes, dans un makom, un lieu qui est cerné, mais le toit, il est tourné vers Hachem. les yeux du juif sont tournés vers Hachem. Ça, c'est la souka. Et le juif, il est en galoute dans ce cercle. Il est exactement à la place où il doit être. Il dit, voilà, Kadosh Baruch Hu gouverne le monde, Dieu gouverne le monde, la Torah, c'est notre référence, mais il est incompris. Donc, il est en galoute, il est en exil, mais il est à sa place. Et donc, c'est ce que Yaakov va faire. Yaakov va dire, la position du juif, c'est d'être dans la souka. C'est l'essence même du juif. C'est-à-dire, finalement, d'être dans une position où il est compris d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'est pas compris des hommes. Il est compris de Dieu, mais pas des hommes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que juste après ce verset, c'est marqué que Yaakov va venir Shalem, à la ville de Shrem, et là commencent des histoires incroyables. Dina va être enlevée par Shrem, elle va être violée, ensuite les frères vont se venger, ensuite il va y avoir une guerre qui préfigure ce que va être le retour des Juifs en Eretz Israël plus tard, puis ensuite il y aura l'histoire de Yosef avec ses frères, qu'on paye encore aujourd'hui, et là vient la deuxième sorte d'exil. Lorsque le peuple juif n'est pas dans son makom, lorsqu'il n'est pas à sa place, alors il doit partir en exil. Et il doit affronter l'exil avec les souffrances de l'exil. Et aujourd'hui, on sait qu'on est en exil parce que Yosef a été détesté des frères, parce qu'il y avait la haine gratuite, parce que personne n'était à sa place. Donc le juif, en fait, sa définition, et ça qu'il dit Yaakov ici, ce que Yaakov dit, c'est ça le lien entre Yaakov et Sukkot, c'est que le juif, il est en exil. Soit il est à sa place, mais il n'est pas compris, et donc il est en exil parmi les nations, mais il n'est pas en exil vis-à-vis de lui-même. Il est dans son da'at, il est dans son discernement, il est là où il doit être. Ou alors, s'il ne tient pas cette place, parce qu'il veut occuper la place de Esav, alors il part en exil, et là il est balancé dans les nations du monde, et il se perd complètement, et il s'oublie complètement. Et donc c'est ça le rapport intrinsèque qu'il y a ici entre Yaakov. Nous on s'appelle des Bnei Israël, on est les enfants d'Israël, on est des Yehudim, du mot Yehuda, en référence toujours à Yaakov ou aux enfants de Yaakov. Parce que Yaakov, c'est le premier juif qui va partir en exil et qui va rester juif et qui va affronter toutes les formes d'exil possibles et imaginables, mais qui, on le voit au milieu de cet exil, ne pense qu'à une seule chose, construire la souka. Construire quelque chose qui soit un espace, certes, mais qui soit un espace frêle, fragile, mais en fait un espace de sûreté sur le plan du da'at, sur le plan du discernement, sur le plan du lien avec Hachem, parce que c'est un espace dans lequel précisément le juif, il occupe sa place, il fait ce qu'il a à faire dans le monde. Last but not least, on va conclure avec ça, c'est que la souka, c'est aussi un endroit dans lequel on mange, on boit, on dort, on peut même avoir des relations conjugales, bon aujourd'hui on ne fait pas, mais la halakha précise, on peut même avoir des relations conjugales. Donc c'est en fait un lieu dans lequel on a une relation au monde, qui est une relation très charnelle, et en même temps, c'est un endroit dans lequel il y a une kedusha, il y a une sainteté qui est celle du Beit HaKnesset. On ne peut pas parler de propos chol, de propos profanes. C'est absolument incroyable. On y fait des choses qui en apparence sont profanes, mais qui en fait sont profondément ancrées dans la dimension du juif, qui est toujours cette dimension de lien entre le matériel et le spirituel. Manger, boire, dormir, avoir des relations conjugales, ça engage une certaine matérialité. Et en même temps, dans la souka, dans l'optique de la souka, dans la civilisation de la souka, dans l'optique de la sainteté de la souka, c'est quelque chose qui permet à l'individu de s'élever, de grandir et de ne pas rester au niveau de la satisfaction de ses besoins. Et ce n'est pas un hasard qu'on démarre l'année avec Sukkot, parce que finalement, c'est toute l'aventure. C'est être capable de vivre dans ce monde, mais en même temps, de comprendre à la fois la portée matérielle, certes, de ce qu'on fait, mais en même temps la portée psychique, mentale et spirituelle de chaque chose. Et ça, c'est une aventure extraordinaire à laquelle la Torah nous convie, et à laquelle va nous convier cette année de Shemitah, 5782, où là aussi, par exemple, en Eretz Israël, on va faire cette expérience du vécu sur la terre, ancré dans la terre, les pieds dans la terre, mais en même temps, cette expérience de Emouna, où on ne cultive pas la terre, et où on fait confiance à Hachem pour nous amener la bracha. Voilà, donc à toutes et à tous, Chag Sameach, et à nouveau Shana Tova.
Alors on va déjà se donner rendez-vous pour une semaine d'aventure, ensuite on verra pour la Shemitah, mais déjà on a une semaine pleine de Sukkot qui nous attend, avec cette idée formidable qu'ont les Chachamim de nous dire, c'est le seul endroit où tu fais une mitzvah par seconde. À partir du moment où tu es assis dans la Sukkot, tu es en train de faire des mitzvot. Donc profite, va avec tes enfants. Va. Donc c'est un moment qui est merveilleux. Rav Mordechai Biton, à Jérusalem, je vous remercie, et de nouveau, Chag Sameach.
Chag Sameach.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Et nous sommes en ligne avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré, Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, tisfou, les shanim, rabot, neimot, vetovot.
Amen, amen, amen. Bonne fête de Soukhot. En ce moment, on a plein de choses à se souhaiter. On se souhaite même des fois à comment dit-on, à revers. Vous avez passé de bonnes fêtes de Kippour. Donc, hein, on se souhaite les fêtes avant, après. Vous avez d'ailleurs passé de bonnes fêtes, Mariacha?
Merveilleux, bon, merveilleux. Rachel. Quelle ascension, Kippour. C'est magnifique.
Bon, Rachel. Alors, c'est inévitable et c'est très beau comme ça. On se dirige à présent inévitablement vers les fêtes de Soukhot. Et vous, vous avez une idée très belle à développer. C'est que, en fait, la soukha, c'est une forme d'entrelacement entre nous et Dieu. Un enlacement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, c'est ça. C'est une idée que développe le Harizal. Alors, pour comprendre cette idée d'enlacement, repositionnons Soukhot dans son contexte. Vous venez de le dire, Soukhot est inévitablement tout de suite après Kippour, qui lui-même est après Rosh Hashanah. Donc, hein, ce qu'on appelle les fêtes de Tishri, il y a un enchaînement extrêmement pertinent de ces fêtes-là. Et à Kippour, le mot-clé, c'était la Mechila. Accorder sa Mechila à l'autre, son pardon à l'autre. On pardonne, on demande pardon. Voilà, c'est un grand, grand moment de remise en question qui est fondamental, hein, pour tout humain, je dirais, en réalité. Et ce mot Mechila est très intéressant parce que, étymologiquement, Mechila, ça vient du mot Machol. Et Machol, ça veut dire un cercle en hébreu. Alors, c'est une très belle façon de concevoir la Mechila. La Mechila, c'est ce que l'on accorde à l'autre pour qu'il puisse à nouveau faire partie de notre cercle. C'est-à-dire qu'à un moment, le cercle a été brisé. Alors, le cercle, ça peut être ma relation entre moi et Dieu, donc un cercle qui contient notre âme et Dieu. Et puis, à un moment, on a peut-être été fâché avec Dieu, avec la Torah, avec la religion. Donc, à nous de ressouder ce cercle. Puis, le cercle, c'est moi et ma famille, ou moi et mon époux, mon épouse, mon enfant. Ça peut être plus large, ça peut être moi et ma communauté, moi et le peuple d'Israël. Et donc, finalement, demander Mechila ou accorder la Mechila, dans les deux sens, c'est pouvoir souder à nouveau ce cercle qui, à un moment, a été fracturé, a été brisé, parce qu'on a exclu une personne de notre vie, parce qu'on a été exclu ou qu'on a exclu. C'est-à-dire qu'à un moment, on a senti qu'on ne faisait plus partie de l'intimité de l'autre. Et donc, il faut refabriquer le cercle. Alors ça, c'est tout le travail de Kippour et de la Mechila. Et puis, tout de suite après Kippour, on est invité à sortir de nos maisons et à aller rentrer dans une autre maison, une petite cabane qui a l'air de rien et qui est pourtant si puissante dans les émotions qu'elle peut nous donner à vivre. Et là, le cercle, eh ben, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient et qui nous encercle. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, tout au long de Soukhot, il va y avoir des histoires de cercles. On va tourner, on va faire des hoshanot, le cercle va être très très présent tout au long de la fête de Soukhot. Et le premier cercle, ça va être le premier soir de Soukhot, où, dit le Harizal, Dieu va nous enlacer. Alors comment il sort cette idée d'enlacement? Vous savez que le jour de Kippour, c'est d'abord et avant tout un jour de mariage, dit la Gemara dans Ta'anit. C'est Yom Chatunato, le jour de son mariage, Zé Yom Kippour, dit la Gemara. Pourquoi? Eh bien parce que n'oublions pas que le jour de Kippour, c'est le jour historique où Dieu nous donne les deuxièmes tables de la loi, qui sont la Ketouba. Donc le mariage qui était, on va dire, pas très bien parti au moment de Shavuot, puisqu'il y a eu le veau d'or, nous nous souvenons, eh bien, ce mariage est réparé, il y a eu une magnifique thérapie qui s'est mise en place, le peuple juif a vraiment regretté, a vraiment désiré ce lien avec son créateur, et on reçoit les deuxièmes tables. C'est un mariage. Eh bien, que se passe-t-il tout de suite après un mariage? Quand la fête du mariage est terminée, hier soir à la Neila, on ferme les portes, ça y est, le mariage est terminé. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait juste après? Ben, on vit ensemble. On s'installe ensemble et on vit ensemble. Eh bien, c'est ce qu'on va faire à Soukhot, où Dieu nous invite chez lui, dans sa demeure, à vivre avec lui. Et il va donc nous enlacer, dit le Harizal, comme le Khatan enlace la mariée, la Kala. Alors, dit le Harizal, les dimensions pour fabriquer une soukha keshera, une soukha qui fonctionne, qui fait son travail, eh bien, c'est deux déphanotes, c'est-à-dire deux côtés, et un troisième côté minimal. Et si on regarde les dimensions minimales, eh bien, l'image qui est donnée par nos sages, c'est qu'un premier côté doit faire au moins la taille de l'avant-bras, un deuxième côté la taille du bras, et un troisième côté la taille de la main. Si vous les prenez l'un à côté de l'autre, vous ne voyez rien d'autre qu'un enlacement d'une personne, d'un bras. C'est comme si un bras venait vous enlacer, vous dire « viens ». Viens chez moi. Alors, la Mechila, c'était cet enlacement-là, qu'on ne peut plus tellement faire depuis le corona, mais qui est fondamental. Faisons-le en tout cas de façon virtuelle. Enlacer une personne, et puis le summum serait cette idée d'être enlacé par Dieu. Ça, c'est une idée qui provient droit de la Chassidoute. Dieu vient et nous prend dans les bras et nous dit bah, c'est tellement bien quand on est ensemble, quand on est en harmonie. Et finalement, si à Kippour, on a décidé de recevoir la Torah, c'est ce qui se passe le jour de Kippour, hein, fondamentalement, de dire à Dieu, on aime cette Torah, elle est fertile, elle nous transforme, elle fabrique la plus belle version de nous-mêmes, et bien du coup, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est la prendre avec nous et vivre avec elle. Vivre dans la maison de Dieu, vivre avec la Torah, ne pas être fâché avec elle, au contraire, comprendre combien elle est fertile, combien elle nous transforme. Et c'est ce qui va se passer tout au long de Sukkot, ou que veut dire finalement vivre avec Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire accepter cet enlacement de Dieu ? Vivre avec Dieu, très concrètement, ça veut dire accepter de vivre avec des choses qui ne sont pas des certitudes. L'humain a extrêmement besoin de sentir qu'il contrôle sa vie, qu'il la maîtrise, qu'elle répond à des principes très clairs, très posés. Et finalement, rentrer dans une soukha, dans cette habitation fragile, c'est accepter quelque part le côté éphémère de la vie, le côté éphémère de nos certitudes, et c'est accepter, eh bien, de dire à Dieu, je sais que finalement, en vrai, c'est toi qui gères tout. J'essaye de me convaincre, j'essaye de me rassurer, plus ou moins, que je gère ma vie. C'est pas vrai. J'ai pas le contrôle dessus. On a le contrôle sur rien, en réalité, que ce soit la santé, la parnassa, le shalom, etc., Israël, enfin, on n'a pas de contrôle. Et se sentir pris en charge par Dieu, c'est certainement la plus belle façon de dire à Dieu, on vit avec toi. Et c'est toute l'idée de cette habitation, comme on l'a dit, temporaire, mais surtout faite au niveau du toit d'un feuillage. Alors, une des idées que j'aime le plus à dire et à redire à l'approche de Sukkot, c'est que on va aller, et l'idée de Sukkot, c'est de vivre sous la soukha et de voir le ciel à travers les branchages. Rappelons-nous, qu'est-ce que c'est que ces branchages ? Depuis que nous ne vivons plus une vie agricole, je pense qu'on est passé à côté de beaucoup d'idées fondamentales de la Torah. Quand la vie était essentiellement agricole, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait ce qui est écrit dans le texte de la Torah. Le texte de la Torah dit comme ça, « Ragasukot », je suis dans le livre de Dvarim, 16e chapitre, « Ragasukot ta'aselecha », tu feras donc la fête de Sukkot pendant 7 jours, « Be'osfecha », lorsque tu rassembleras migarnecha ou migbecha, ce qui veut dire de ton champ et de ton pressoir. Lorsque tu rassembleras deux migarnecha. Alors de là, la Gemara va apprendre comment est-ce qu'on fait le toit de la soukha. Eh bien, nous sommes exactement au moment où on a terminé la récolte, qu'on a tout rassemblé, et puis il y a ce qui reste, les restes d'eux. Les restes de la vigne, les restes du champ de blé ou n'importe quel champ. Il y a tous ces branchages qui apparemment ne servent à rien. On est allé prendre les fruits sont utiles, les fruits sont consommables, et puis il y a tout ce qu'il y a autour qui ne sert à rien. Et tout ça qui sert à rien et qui en général est laissé comme ça dans le champ, inutile, bien nous on en fait une utilité, on le prend. On prend ces branchages apparemment inutiles et on en fait un toit. Et à travers ce toit, on voit Dieu. Et en fait, l'idée symbolique ici merveilleuse, c'est que rien dans l'année écoulée n'a été inutile. Et que le travail de Sukkot, c'est de pouvoir percevoir la main de Dieu, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, la proximité que l'on peut vivre avec Dieu à travers les événements que l'on pense avoir été inutiles. Une maladie, une difficulté au travail, une difficulté dans son couple. Et on se dit, mais finalement, à quoi ça a servi tout ça ? ben ça, il faut donner du sens. Et c'est peut-être ça le secret de la Simcha de Sukkot, c'est de trouver le sens a posteriori aux événements qu'on a pensé être inutiles dans l'année passée. Toute cette charge-là avec laquelle nous sommes arrivés à Kippour, on s'est dit, Hachem, j'aimerais bien te pardonner toutes ces difficultés-là que tu m'as envoyées cette année passée. Eh bien, peut-être la meilleure façon, c'est de pardonner à la vie en donnant et en trouvant le sens de ces événements-là. Aucun événement n'est laissé au hasard. Nous sommes invités dans la soukha d'Hachem, c'est-à-dire nous sommes invités à comprendre que tout a du sens. Et tout est là pour rédimer le monde et pour nous aider à faire sortir la plus belle version de nous-mêmes. Et ça sera sûrement, certainement, en se sentant aimé de Dieu, invité dans sa demeure, et en sentant que tout a du sens, c'est-à-dire en sentant que tout cela nous amène vers une plus grande émouna. Et c'est, je terminerai en disant que c'est exactement le nom que donnent nos sages à la petite cabane au fond du jardin, comme dirait l'autre, Tsila de Nehemnuta. Nous sommes à l'ombre de la émouna. L'ombre de la émouna, c'est-à-dire qu'il suffira de manger, de rigoler, de respirer, de raconter notre journée sous la soukha, et on est, chaque seconde, il faut imaginer, bing, 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 là-haut, les mitzvot qui tombent, chaque seconde est une mitzvah, parce qu'on vit à l'ombre de la émouna. Et ça, c'est certainement ça, le zman simchatenu. Il n'y a pas de plus grande simcha de sentir que de ne sentir qu'on est l'enfant aimé d'Hachem, qu'il aime ce lien avec nous, qu'il aime qu'on avance, qu'on se transforme, qu'on se fertilise par la Torah, et qu'il nous aime surtout, surtout quand on est dans la Simcha. Et c'est ce qui va faire qu'on va faire des rondes, encore et encore des rondes, tout au long de ce Sukkot, et bien parce qu'on a accordé notre Mechila, on nous a accordé la Mechila, qui est un cercle, et Hachem vient et nous enlace. Alors, il n'y a rien de plus beau que cela pour danser et pour faire des rondes. Et ça, on en reparlera la semaine prochaine pour Simchat Torah.
Amen, amen. Magnifique. Alors là, on va rentrer dans Shabbat tout doucement. On va passer de belles fêtes. Je suis sûr que les uns et les autres, on va se raconter. On va dire, ah, t'as entendu ça? C'est intéressant. On est enlacés. Mayasha Drey, je vous souhaite un bon Shabbat. De bonnes fêtes. Et à la semaine prochaine. Bonsoir à vous, Mayasha.
Bonsoir, très bon préparatif à tous. À bientôt.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom, évidemment de bonnes fêtes. On ne boude pas son plaisir, on le dit tout le temps, on le redira. Et je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré. À tout à l'heure.